dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Lequel va ouvrir sa Bible en premier à Jean 19. Nous avons une parole de Jésus. Il est sur la croix, et la semaine dernière, quelle était la parole de Jésus ? Nous avions des baptêmes. Quelle était la parole de Jésus la semaine dernière ? Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Jean 19, versets 25, 26 et 27. Jean 25, 26 et 27, au chapitre 19. Et comme ils ont tous une voix qui n'est pas encore une voix qui porte, eh bien nous allons leur porter un micro. Là, c'est comme dans la classe, en général, on baisse la tête et on montre le voisin comme ça avec le doigt. Donc, qui a ce verset ? Déjà là, hop. Arthur, tu l'as ? Arthur, t'es dans Luc, t'es pas au bon endroit. Allez.
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui.
Merci. Alors sur ce micro, je crois que tu as un petit interrupteur qui permet d'éviter qu'il fasse du bruit pendant qu'on le manipule. Merci. Comme ça, tu pourras le donner à un de tes voisins pour une lecture. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Nous avons d'autres traductions qui disent ensuite, Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors pourquoi une telle déclaration ? Pourquoi une telle déclaration là sur la croix, tout d'un coup ? Il s'agit, il me semble, de la seule des sept paroles de Jésus sur la croix qui n'implique que des personnes humaines, pleinement humaines, qui vont continuer leur parcours terrestre encore quelques années. Parce que le brigand qui était avec lui la semaine dernière, il n'a pas continué son parcours sur la terre. Donc là, il s'adresse à des personnes, Jésus, qui vont continuer leur parcours. Et ces personnes qui sont concernées par les paroles de Jésus partagent des liens particuliers avec Jésus. Alors, ces quelques mots ont permis à des générations et des générations de chercheurs, de personnes qui sont avides d'histoire, qui souhaitent savoir, qui veulent retrouver les traces. Vous vous rappelez du Da Vinci Code, hein ? On veut savoir quel est l'héritage de Jésus, sa descendance éventuellement, et on cherche avec des codes, avec des signes. Et puis on s'est creusé la tête, on a creusé des galeries, on a même mené des croisades pour faire ce genre de choses, pour retrouver où étaient les ossements d'un tel, où était le tombeau d'une ou d'un tel. Là, on a tout ce qu'il faut pour aller se perdre dans des histoires, pour pouvoir transmettre à d'autres générations des choses fausses, par exemple, des lieux, des endroits où il faudrait être passé pour pouvoir recevoir la vérité. Parce qu'évidemment, eh bien Jean a obéi et il a emmené Marie avec lui. Et ils ont déménagé, ils sont partis un petit peu plus loin. Alors Marie, évidemment, c'est un personnage un petit peu particulier dans l'histoire. Elle se trouve être la servante du Seigneur et elle accepte d'être une mère totalement unique dans l'histoire de l'humanité. Avec tous les risques encourus, on en a parlé à Noël, et avec les liens du sang direct avec un être qui est le Fils de Dieu, avec tout ce que cela impliquait de glorieux mais aussi de douloureux. Et je crois qu'on peut remettre le micro en marche, le micro rouge, parce qu'Arthur va nous lire Luc 1, 30 à 33.
L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin.
Et puis tu peux transmettre ton micro à un voisin qui va lire dans Luc 2, 34. Luc 2, 34. Mais là, on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Mais si on se rappelle bien, nous sommes en pleine crucifixion, et Jésus, semble-t-il, n'est pas en position de récupérer le trône de David, son ancêtre. Et ça n'a pas l'air de se passer exactement comme l'ange avait prévu. Il y avait des promesses glorieuses, mais semble-t-il, les promesses glorieuses se sont transformées en promesses douloureuses. Et est-ce que notre ami a trouvé Luc 2, 34 avec Siméon ?
Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront.
Merci. Et toi-même, au verset 35, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Alors, comment peut-on comprendre cette double souffrance de Marie lors de la crucifixion ? Ça fait 30 ans, et particulièrement les 3 dernières années, que Marie repasse dans son cœur les prophéties de l'ange, les prophéties de Siméon, et tout en voyant les œuvres miraculeuses de Jésus. Il subsiste en son cœur, j'imagine, un terrible dilemme. Et si son premier-né avait été un enfant un peu comme les autres ? Sans histoire, sans miracle, serait-il là crucifié comme un criminel ? Mais nous le savons, Jésus ne fait jamais rien comme les autres. Et en première lecture, là, Jésus, pleinement homme, au moment où il dit ses paroles à Jean et à Marie, Jésus, pleinement homme, donne là une dernière volonté qui est d'ordre terrestre. Ça ressemble un petit peu à un testament. Voilà mes dernières volontés pour vous qui restez. Alors on le sait très bien, ce n'est pas nouveau que les femmes seules, les veuves en particulier, il fallait en prendre grand soin dans ces temps troublés. Perte de revenus, perte de rang social, laissée là, il fallait la famille autour. Marie n'avait-elle donc nulle part où se réfugier ? N'avait-elle donc aucune famille ? Il y avait Joseph, père terrestre adoptif de Jésus, qui n'est plus là depuis, semble-t-il, un certain temps. La dernière fois qu'on entend parler de Joseph présent, en présentiel, c'est lors de la fugue de Jésus. La fugue de Jésus, qui décide, lui, de passer ses oraux de fin d'études de théologie devant les sages à Jérusalem, sans prévenir personne. Il est un petit peu rappelé à l'ordre, lui aussi rappelle à l'ordre. Mais on ne cite plus Joseph ensuite. On cite Joseph, pas en présentiel, on cite Joseph pour dire mais ce Jésus-là qui fait des miracles, c'était pas le fils du charpentier, Joseph. Voilà, mais plus de traces de Joseph. Marie est probablement veuve, certainement même. Alors Jésus avait pourtant aussi des frères et des sœurs de sang. Où sont-ils ? Il avait des frères et des sœurs de sang, mais Jésus décide, devant témoin, de confier Marie à un de ses disciples. Devant témoin. Alors, dans le contexte, il est, à mon sens, un petit peu risqué, de la persécution étant à venir, Et on peut s'interroger sur l'opportunité de confier un proche à un hors-la-loi, selon les Juifs, tout pouvant porter à croire qu'une vague d'arrestations allait suivre, voire des exécutions, et que le malheur allait certainement débuter. Mais non, Jésus confie Marie à un de ses disciples. À plusieurs reprises, Jésus avait déjà exprimé sa séparation des préoccupations familiales terrestres de sa mission divine. Il avait déjà rappelé à 12 ans à Marie que son père n'était pas Joseph. En effet, lui, il devait s'occuper des affaires de son père dans les cieux. Mais il est écrit qu'il reste un enfant soumis à ses parents. Aux noces de Cana, il rappelle à Marie qu'il est là pour faire la volonté de son père. Alors Marie conclut, faites ce qu'il vous dira. Et si quelqu'un, parmi le premier rang, peut chercher dans Marc 3:20, il semble que c'est Elliot qui est en recherche, là, les pages. Marc 3:20. Nous avons un épisode où la famille de Jésus, c'est au début de son ministère, cherche à le ramener à la raison en début de mission. Jésus va recadrer alors tout le monde en donnant sa définition à lui de la famille. Est-ce que c'est bon, Elliot ?
Oui.
Marc 3, verset 20, et puis après le 31 et 35. 31 à 35, pardon.
Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger.
Et 31 à 35 après.
Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus. Et on lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils veulent te voir. » Jésus répond, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit, « Voici ma mère, voici et mes frères. » Et si, oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère.
Merci, Elliot. Vous pouvez poser le micro. Gardons donc cette déclaration de Jésus en tête pour la suite. Alors l'autre personnage, ce disciple que Jésus aimait. Déjà qu'avec Marie, nous avons eu notre lot d'interprétations, de controverses, plus idolâtres et superstitieuses les unes que les autres. Alors, avec Jean, le disciple que Jésus aimait, merci du cadeau pour les controverses et les histoires mal interprétées. Jésus faisait des préférences. Il y avait un petit chouchou dans le groupe. Bien sûr que non. Et pour éviter les controverses, pour éviter les mauvaises interprétations, quoi de mieux que d'aller lire dans les textes que de retrouver exactement qui était Jean. Jean, c'est le personnage qui est présent dans tous les événements clés de la vie de Jésus. La transfiguration, le temps de scène, la crucifixion, mais d'autres. Si l'on cherche, Jean est présent au moment clé. Sa proximité avec Jésus lui a permis de témoigner de manière unique des enseignements et des miracles de Jésus. Nous pouvons souligner l'importance du témoignage personnel de Jean dans la diffusion de l'Évangile, plus tard dans le livre des Actes et dans la construction du royaume de Dieu. Jean est souvent présenté comme un modèle de fidélité et de courage dans les Évangiles. Sa relation étroite avec Jésus et son engagement envers sa mission témoignent de ce que signifie être un disciple authentique. Jean, accompagné de Jacques, pousse même l'audace jusqu'à demander à Jésus d'être un jour assis à ses côtés dans les cieux. Ils se sentaient d'attaque pour subir les mêmes souffrances que leur maître. Quand Jésus leur a posé la question, ils ont dit « Oui, nous le pouvons ». Et Jésus a témoigné qu'il a dit « Oui, vous allez le vivre ». Mais même si on peut considérer cette demande de siéger à côté de Jésus un peu comme surréaliste, elle témoigne cependant de l'engagement et de la certitude des deux disciples sur leur engagement auprès de leur maître. Et parmi les 12 disciples, Jean est souvent mentionné comme le disciple donc que Jésus aimait particulièrement. Et cette affection spéciale entre Jésus et Jean souligne l'importance de l'amour fraternel et de l'intimité dans la relation entre chrétiens. La relation spéciale entre Jésus et Jean souligne par ailleurs la profondeur de l'amour divin pour l'humanité. Et là, nous pouvons commencer à mieux percevoir cette volonté de Jésus lorsqu'il est sur la croix. Alors Jésus confie sa mère, Marie, à Jean, lui donnant ainsi une responsabilité toute particulière. Cette action, par ses paroles, souligne la confiance et l'estime que Jésus avait pour Jean. On se rappelle de la première lecture tout à l'heure. Jésus appelle sa mère femme. En appelant Marie femme, il apparaît là que la mission en tant que mère de Marie sur la terre touche à sa fin. La mission de Marie en tant que mère de Jésus sur la terre touche à sa fin. Comme Jésus l'avait déjà affirmé, il n'est nul besoin de lui accorder plus de prérogatives spirituelles ni de la placer sur un piédestal en la nommant par exemple mère de Dieu. Non, à compter de maintenant, elle devient une mère pour Jean. Et ce disciple qui est venu jusqu'au pied de la croix devient son fils adoptif par la volonté de celui qui sauve. Par cette parole, le Seigneur comble en partie le vide immense et douloureux que son départ allait laisser dans le cœur de cette mère, comme nous l'avons vu, qui n'est pas comme les autres. Et dans les mots « Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui », nous laisse penser que Jean n'a pas tardé à l'entraîner. Loin de ce spectacle, ce sont les mots qui décrivent ce temps, ce spectacle qui attirait les foules, mais qui brisait le cœur de ses proches et mettait la crainte dans le cœur de celles et ceux qui le suivaient, mais qui restaient à distance. Par cette parole, Jésus fait d'un événement personnel qui implique les personnes qui lui sont parmi les plus proches, sa mère, celle qu'il a portée, mis au monde, élevée, et un ami intime et fidèle, un exemple universel de sa conception de la famille spirituelle qui doit être la nôtre aujourd'hui. En confiant sa mère, Jésus s'assure que Marie sera prise en charge et bien soignée après sa mort. Alors dans la culture juive de l'époque, il était important pour les fils de prendre soin de leur mère, surtout en cas de veuvage et de besoin. Mais en la confiant à son disciple le plus proche, Jésus fait bien plus que cela. Que fait Jésus ? Il établit un lien familial spirituel entre ces deux personnes, nous permettant de mieux comprendre l'importance de la communauté, de la solidarité et de la prévenance parmi les disciples de Jésus, au-delà des liens du sang. Je vous invite à prier. Et nous prendrons un chant juste après. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces paroles. Quand nous lisons ta parole, nous pouvons sentir que rien n'est laissé au hasard. Ton temps sur la croix, si douloureux, ne t'a pas laissé le loisir, si j'ose dire, de donner des paroles en l'air. Seigneur, ces paroles que tu as prononcées, t'es lourde de sens, de responsabilité, et Seigneur, nous marque encore toutes ces années après. Seigneur, que nous puissions nous les approprier. Nous prions, Seigneur, pour notre famille ici, notre famille, la famille que nous formons. Seigneur, ce miracle de rassembler des personnes qui probablement dans le monde n'auraient peut-être rien à partager ou rien à se dire. Et Seigneur, pourtant, tu nous rassembles tous ici. Et Seigneur, cette famille est encore plus nombreuse, et pas seulement dans l'agglomération de Chambéry, Seigneur, par tout le monde. Seigneur, nous te prions de mettre dans notre cœur cet amour, cette prévenance, les uns pour les autres, dans cette famille, Seigneur, que tu as miraculeusement créée. En ton nom, nous te prions. Amen. J'invite l'équipe louange à me rejoindre. Nous allons prendre un chant en...